Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de cette émission. On va recevoir la visite de l'écrivain et rappeur Biz, Sébastien Fréchette, tout à l'heure, qui va nous parler de sa passion pour notre histoire à la veille des célébrations de la Saint-Jean, la fête nationale. Je vais vous demander si pour vos vacances, vous êtes plus plage ou musée. Et en première heure d'émission, vous êtes déjà très nombreux à réagir à cette nouvelle d'aujourd'hui. On apprend que la taxe d'immatriculation de Montréal va être sans doute étendue aux 4-5 des routes, c'est-à-dire les gens, entre autres, de l'agglomération Longueuil, de la Rive-Sud, vont devoir contribuer un peu plus. Ça va se décider sans doute aujourd'hui un peu plus aux potes du transport en commun. Et ça tombe très bien parce que, justement, nous, on a prévu ce matin, en première heure, une discussion là-dessus parce qu'il y a beaucoup de tarifs qui vont augmenter au 1er juillet, entre autres, à la STM, vous allez avoir une augmentation. Et on en parlait cette semaine avec mon invité Patrick White, qui nous parlait des avantages et des désavantages d'être un touriste à Montréal. Il y avait, entre autres, les infrastructures qui étaient pas très accueillantes pour les gens qui viennent nous voir. Mais il y a aussi, pour les gens qui y habitent, ces augmentations de tarifs du transport en commun. Et avec le nouveau REM, le REM, le fameux train qui s'en vient à grands pas, d'ici 2 ans, il va y avoir des augmentations assez salé, entre autres pour les étudiants. Et c'est toujours un peu cocasse, pour pas dire complètement ridicule et incompréhensible, que le discours, ça soit d'encourager les gens à prendre le transport en commun, puis du même coup leur dire « Ah, entre autres, regardez, on va vous augmenter le tarif. » Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Je sais pas si vous comprenez l'approche. C'est-à-dire, tu sais, on nous encourage à prendre le métro, l'autobus, d'accord, déjà que ça marche quinquain, mais c'est pas grave, on fait notre effort, on supporte, on est patient. Mais en même temps, on se fait régulièrement augmenter les tarifs. Alors vous, est-ce que ça a un effet malgré tout positif sur vous? Est-ce que ça vous donne tout de même envie de prendre les transports collectifs? Ou ça vous refroidit puis vous dites, à un moment donné, tant qu'à payer ce montant-là par mois, je vais m'acheter une auto? C'est ce que beaucoup de gens, d'ailleurs, ont fait après avoir essayé les transports collectifs. Pour en discuter, Marc-Antoine Desjardins est avec nous. Il est un avocat qui habite au plateau Mont-Royal. On a quasiment de la sympathie.
Merci
Marc-Antoine, c'est devenu impraticable.
Je souffre beaucoup, non, pas du tout.
Vous êtes en transport en commun, Marc-Antoine?
Transport actif, je vous dirais 90%.
Actif, ça c'est la trottinette, c'est quoi?
Non, j'ai mon vélo.
Vélo à pédale ou vélo électrique?
Pas vélo électrique, vélo aux forces humaines.
Ah, c'est bon.
Les deux pattes.
Mais il paraît qu'il faut pédaler quand même pour le vélo électrique.
Oui, mais c'est correct. C'est bon pour les gens qui ont des problèmes de hanches, qui ont des atteintes au niveau de la mobilité. C'est parfait, ça. Ça démocratise
l'activité. Mais vous êtes en vélo?
Vélo, j'ai une voiture, ou si transport en commun, le métro, Azur, c'est merveilleux.
Julia Posca est avec nous. Elle est chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Votre moyen de transport à vous, Julia?
Bonjour, c'est le vélo l'été puis la marche l'hiver. Le transport en commun vient en troisième place.
En troisième place. Hein. Mathieu Gaudreau est avec nous. Il utilise aussi le transport en commun. Il est président de l'ETUB. Oui, t'aimes
Bonjour.
Ça? T'es content?
Correct, c'est correct. Ça convient à certains besoins, le transport en commun, mais je dois dire que je suis plus un triptyque. Je suis plus vélo, voiture et transport en commun.
Et là, vous savez qu'à partir du 1er juillet, donc, le prix du passage va augmenter de 25 cents à Montréal, sur la Rive-Sud et à Laval. Comment vous voyez cette augmentation, vous qui utilisez le transport en commun, Mathieu?
Ben écoute, je trouve ça paradoxal, de justement, comme tu disais, d'encourager les gens à utiliser le transport en commun et on les augmente tout le temps. Mais on augmente les tarifs, mais ce qui est du service, par contre, ça laisse fortement désirer. Je ne sais pas véritablement à quoi ces hausses-là correspondent. Ça correspond, est-ce qu'on ouvre des nouvelles lignes, est-ce qu'on ouvre des nouvelles rames de métro, est-ce qu'on la propreté, l'aménagement et tout ça, on ne le sait pas. Est-ce que ça sert à payer des salaires? Est-ce que ça sert à payer de l'infrastructure? On ne le sait pas, on n'a aucune idée, mais c'est une très bonne façon de décourager les gens de prendre le transport en commun.
Puis, je vous parlais des étudiants qui sont les grands utilisateurs de transport en commun. Eux aussi sont concernés par cette hausse de tarifs à partir du 1er juillet. Donc, ils vont devoir dépenser 52 $ à Montréal, 77,50 à Laval et 60 $ à Longueuil pour leur passe de métro.
C'est énorme.
C'est beaucoup c'est énorme. D'argent pour des étudiants. Tu sais, j'ai fait un espèce de petit sondage d'union scientifique autour des étudiants, le collégial, l'université, là, autour. Puis il y en a qui commencent à dire, ben là, franchement, tu sais, en même temps, t'es comme un peu pris. Comment tu vois ça, Marc-Antoine?
Quand j'ai fait mes études à Sherbrooke, il y a eu un projet pilote en 2004 qui a été instauré. Et c'était la gratuité pour les étudiants.
Ouais.
Et ça coûtait à l'époque 1 million de dollars, qu'on disait, pour environ 10-15 000 étudiants, cégep et université durant les sessions. À l'époque, bien sûr, j'avais acheté une voiture de la famille. J'avais une voiture pour être à Sherbrooke, parce que j'étais à Montréal. Et je prenais le transport en commun, c'était très pratique. Alors, je pense qu'il y a des avenues aussi qu'on doit voir à Montréal pour aider les étudiants. Il y a toujours les frais de cellulaire. J'imagine que la génération YOLO, FOMO, je veux dire, ils ont le dernier cellulaire iPhone 14 000 version. Et c'est des coûts, ça.
Le transport
en commun doit être quand même subventionné, à mon avis, puis on peut donner un coup de main aux étudiants.
Parce que l'argument du cellulaire, on l'entend beaucoup. Ouais. Oui, mais ils peuvent payer c'est plus vrai. Parce qu'ils ont des cellulaires. C'est vrai ce que tu dis. Mais par contre, pour un étudiant aujourd'hui, son cellulaire, c'est aussi son outil de recherche, c'est son outil d'attachement familial, c'est son outil de gestion de temps, c'est son outil de gestion personnelle. Je veux dire, le cellulaire, à un moment donné, c'est un investissement qui devient quasiment obligatoire. Moi, à l'époque, quand j'étudiais, j'étais obligé de m'acheter un Mac qui marchait une fois sur deux. À l'époque, les Macs marchaient très mal, qui me coûtait cher. Mais maintenant, les étudiants, eux, cet outil-là, ils l'ont dans leur poche.
Oui,
donc,
j'ai un peu de misère avec tout le temps. Tu sais, c'est comme à l'époque, quand on parlait des assistés sociaux, qu'on disait, ils ont de l'argent pour s'acheter de la bière, ben ils sont capables de payer une augmentation sur une augmentation de taxes et cigarettes. Tu sais, c'est la même logique de dire, ben si tu achètes, parce que ça finit par... C'est comme si tu finis par te mêler de la vie du monde et leur dire, ben toi, regarde, fais un choix, là. Parle moins au téléphone, puis paye pour le transport en commun. Fait que,
c'est un cocktail de services, c'est-à-dire qu'écoutez, ce qu'on pourrait voir avec des sources autres que le financement dans la poche des gens, aller augmenter, aller chercher des tarifs supplémentaires, il y a d'autres avenues qu'on pourrait exploiter pour éventuellement financer un transport adéquat pour les étudiants à commencer.
Et ça, c'est la talle de Julia. Si Julia, qui est chercheure justement à l'Institut de recherche d'information socio-économique. Il y a 2 ans, l'IRIS s'est penchée sur le transport en commun. Julia, avec votre équipe de chercheurs, vous avez étudié justement l'idée de rendre gratuit le transport collectif pour les aînés, les étudiants de 25 ans et moins, moi, évidemment, c'est une idée que je trouve fabuleuse. J'en parle souvent aux auditeurs. Expliquez-nous un peu l'essentiel de vos études là-dessus.
Mais en fait, l'idée, c'est que le transport, c'est une dépense qui n'est pas flexible. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de dépenser pour se rendre au travail, par exemple, ou aller étudier, peu importe. Et donc, plus ce coût-là augmente, le coût du transport, ben plus on doit couper sur d'autres dépenses, comme par exemple les vêtements ou les sorties au resto ou la marque de téléphone cellulaire qu'on va acheter. Et donc, il faut se rappeler que les usagers du transport en commun, oui, c'est les étudiants, mais c'est aussi les ménages plus pauvres. À Montréal, c'est presque 20% là, des familles qui sont en dessous du seuil de la pauvreté. Puis, c'est évidemment, les ménages plus pauvres utilisent davantage le transport en commun que les ménages qui sont un peu plus fortunés puis qui peuvent se payer une voiture. Et donc, l'idée d'avoir une tarification sociale, ben c'est de dire, on va justement permettre à des catégories de la population qui sont plus moins fortunées de diminuer le coût du transport là, le coût que ça, par année du transport. Donc on avait calculé que on a déjà des tarifs réduits pour les étudiants et pour les aînés. Si on avait une gratuité pour ces deux catégories-là de la population...
Qu'est-ce que ça ferait là en termes de surcoût pour les autres, par exemple? Est-ce que vous l'avez mesuré, ça?
On avait calculé que le coût de cette mesure-là, ce serait 100 millions par année. Une gratuité pour l'ensemble des résidents de Montréal, qui est une autre avenue qu'on a explorée, c'est un coût de 500 millions par année. Donc, évidemment, c'est des mesures qui ont un coût, qui vont donc devoir nécessiter d'aller chercher des fonds ailleurs que dans la poche des usagers, mais qui ont des avantages parce que finalement, ben, c'est des mesures d'inclusion sociale, ouais. C'est-à-dire que ça permet justement aux gens de se rendre au travail sans s'appauvrir pour le faire. Mmh. Ça donne accès aux services publics.
Moi, je pense que pour les aînés puis les jeunes, c'est un no-brainer, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'on ne devrait même pas en débattre trop longtemps, ça
exactement.
Devrait être de facto ben, une mesure
sociale,
qu'on...
La vie sociale des aînés, souvent, ça va par le transport en commun. Ils vont au musée, ils peuvent se promener à Montréal.
T'sais, on veut briser l'isolement. Exactement. Tu cherches une mesure de briser l'isolement. Encourage les gens à sortir, ça va déjà les aider à briser l'isolement.
Puis c'est une mesure qui existe dans d'autres villes.
Québec, à part Sherbrooke, là, pour les jeunes.
À Gatineau, il y a une forme de tarification sociale. Il y en a une à Toronto, il y en a une à Ottawa, il y en a à Calgary. Donc, les formats varient d'une ville à l'autre, mais c'est une politique qui fonctionne qui est utilisée dans plusieurs endroits parce qu'on reconnaît l'utilité d'une telle mesure là, pour les ménages.
Et vous en pensez quoi là? Je fais du pouce aussi sur la taxe d'immatriculation de Montréal qu'on veut augmenter à 50$ pour le 450. Là, on voit des gens dans le journal réagir ce matin en disant, hey, il n'y en a pas question là, que je paye encore plus. Le monsieur, le Roger, là, qui parle dans le journal ce matin, qui dit, moi, je trouve qu'ils en veulent toujours plus, puis c'est toujours les automobilistes, puis c'est toujours de plus en plus profond dans notre poche. Bon, toi qui as une auto, Marc-Antoine, quand même, comment tu vois ça?
C'est toujours le même discours. On se fait toujours dire, on va aller vous en chercher plus, mais on va vous donner un meilleur service. Un peu comme ce que Mathieu disait, on va vous donner... Je pense que c'est le maire de Laval là, qui disait récemment, ben, c'est parce qu'on va vous enlever une heure de trafic.
Ouais.
Une heure d'attente pour une pièce de plus quoi, par semaine, c'est un café de plus. Toujours le café. Finalement, un café coûte 4$ aujourd'hui en passant. moi, dans les années 80...
Elle n'est pas où tu vas, Marc-Antoine.
Bon, ça dépend, effectivement.
Il vit sur le plateau.
Sur le plateau, sur le plateau.
J'ai mon café chez moi. Ouais, j'ai mon café chez moi. Mais tout ça pour dire que, dépendamment de vous venez, encore une fois, on n'a pas l'alternative efficace. Mm-hmm. Regardez juste, à l'époque, quand j'allais au secondaire, je partais de Boucherville, j'allais à Montréal. Ça me prenait 1h15, 1h30, aller.
Mm-hmm.
À un moment donné, quand j'allais au cégep, ça me prenait la même chose. Si je prenais la voiture de mes parents, ça me prenait 15 minutes sans trafic.
Mm.
Bon, faut dire que le gaz, il coûtait quoi 65 sous à l'époque. Là, puis je vis pas, je suis jeune, là. Mais encore une fois, on a toujours un discours corporatiste qui nous dit... Faites-nous confiance, on va améliorer la situation.
Ouais.
Mais là, on est à l'aube de 2020 et finalement, on ne voit pas l'amélioration.
Oui, c'est ça. Puis tu vois, sur le bout, on va vous augmenter de 50$, mais j'ai comme pas entendu le bout et on va améliorer le service. Ben, c'est sûr que ça vienne avec.
C'est une obligation de moyens. En droit, tu as l'obligation de moyens et l'obligation de résultats. J'aimerais ça avoir des obligations de résultats. Le chauffeur d'autobus, légalement, c'est une obligation de résultats. Il doit vous amener du point A au point B. Mais le gestionnaire à la STM, puis je comprends que la STM à Montréal, c'est peut-être le moins cher de toutes les grandes villes du Canada. On est moins cher que Québec, que Laval, que Longueuil, bien sûr, Toronto, Calgary, Vancouver sont plus chers que nous, mais c'est pas le même niveau de vie non plus.
Non.
Mais tout ça pour dire qu'à quelque part, on veut s'attendre à des résultats, pas juste des belles paroles. On veut que les projets concrets, une autre ligne de métro, il en faut. Imaginez-vous, Isabelle, si le maire Drapeau, en 63, avait plutôt décidé d'augmenter le niveau d'autoroute versus la création du métro qui est faite en quoi, 4 ans? Métro de Montréal, pour Terre des Hommes, en 67? 4 ans que ça a pris? On avait un métro Nec plus Ultra? Regardez des villes comme Barcelone qui a un réseau beaucoup plus développé, mais il faut faire d'un sacrifice. Le problème aussi au Québec, c'est que tout le monde va aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir.
Mais sur le financement, si je peux me permettre, c'est sûr que les taxes, personne n'aime voir ces taxes augmenter, puis bon, ça a un effet régressif. Là, plus notre revenu est bas, ben plus ça a un impact financier sur nos finances. Par contre, il y a juste un élément qu'on nomme jamais, c'est que les usagers on finance aussi les automobilistes, hein? C'est-à-dire qu'on dépense collectivement 8 milliards de dollars par année pour l'entretien des routes, 500 millions en dépenses de santé publique liées aux problèmes de santé qu'engendre l'utilisation de la voiture. Donc, faut quand même pas oublier que
tout le monde
demande
tout
le monde de financer le transport en commun. Mais
là, j'ai des gens qui me disent pourquoi les cyclistes devraient pas payer, ils utilisent la route aussi.
Oh, ben parce qu'ils payent de toute façon déjà la route en payant des impôts, en payant différentes taxes de TPS et de TVA.
Mais là, si on leur met des pistes cyclables, qu'on me dit, ben là, qui utilisent une partie de la route qui était autrefois dédiée aux automobilistes, ben là il y a une pour certaines personnes en tout cas ça semble être une évidence que de taxer un peu plus les cyclistes. On va s'arrêter ici, très courte pause. Vous pouvez vous joindre bien sûr à la discussion. Notre question c'est bon, est-ce que si on veut que les gens prennent le transport en commun, est-ce qu'on a raison d'augmenter les tarifs? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure? 514-790-9850 et sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850.
Il fait beau dans le métro! Il fait beau dans le métro! Tout le monde est gai, tout le monde a le cœur au soleil!
Il fait beau dans le métro!
Plus ça va vite, plus il fait beau!
Quelle année ça, Sébastien, déjà? Et ça, c'est dans les... Ça, là,
ça c'est passe-partout, être... ça.
Et ça, c'est... ça fait longtemps. Ouais. Ça. Il me semble que j'étais petite. Il me semble que
moi
ça
aussi,
fait longtemps.
Je prenais pas le métro à cet âge-là.
On a Pierre qui est avec nous. Bonjour, Pierre.
Bonjour, à tous vos invités, pour vous dire que moi, je suis d'accord avec l'augmentation, parce que je me dis, dans un sens, c'est que non, je ne suis pas d'accord pour les autos, mais je m'attends à ce que au moins le transport en commun, on paye sur l'étiquette une certaine augmentation, parce que on parle toujours, les politiciens, à un moment donné, d'utilisateurs-payeurs.
Ouais.
Au Québec, on a souvent cette manie-là de vouloir donner le plus bas possible, le plus gratuit possible, ci, là, ça, mais à un moment donné, on finit toujours par payer. Puis moi, ce qui me frustre, c'est qu'entre autres, le transport en commun à Montréal, l'autre jour, il y avait un article qui disait qu'il y avait des fraudes. Le monde passe par-dessus le tourniquet, il paye pas, puis c'est pour 20 millions par année. Mais ces 20 millions-là, s'ils mettaient un tourniquet plus haut, 5-6 pieds plus haut, on pourrait tout de suite gagner 20% 20 millions d'économies de plus qui pourraient aider le réseau. Mmh. Fait qu'il y a des choses à faire. Puis le réseau, de toute façon, il commence à être sursaturé. Alors, de pointe le matin, c'est pas rare que le monde en laisse passer deux, trois rames de métro. Fait que si on lâchait toutes nos autos pour prenait tout le transport en commun, ils pourraient pas nous prendre de toute façon.
Non, c'est ça.
Puis en plus, moi, vous parlez de gratuité, c'est intéressant. Personne âgée, je vais l'être l'année prochaine à 65 ans. Puis les étudiants. Mais le problème, c'est que justement, on n'a pas les moyens de se payer ça. Puis deuxièmement, le métro, là, il y a des stations de métro, comme j'ai compté, les stations de métro où je vais, il y a 21 marches à monter. Fait que quand les escaliers mobiles font défaut ou quelque chose, c'est pas toujours évident. T'es tassé, tu laisses passer des rames, t'as de la misère à monter tes escaliers. C'est loin d'être si fun que ça, le transport en commun. En tout cas, c'est à l'encontre de votre chanson de tantôt. C'est pas si beau que ça dans le métro, mais je pense que l'expression utilisateur-payeur, moi, je serais d'avis qu'il faut payer.
Par contre, vous n'êtes pas pour les étudiants?
Pour les étudiants puis les aînés, c'est la même chose, parce que je me dis déjà, nous autres, les automobilistes, dans le Journal de Montréal, dernièrement, il y avait un article qui disait qu'on payait en moyenne 9 milliards par année, je pense, au total, ou 7 milliards, je me trompe peut-être. Un des deux, mais on parle de milliards qu'on donne d'argent dans la province pour aider pour les routes, pour tout.
Fait, je me dis, ce qui est tout à fait normal, il me semble, non?
C'est peut-être normal, mais le cycliste, justement, comme vous disiez tantôt, ce serait-tu normal qu'il paye ses nouvelles pistes cyclables? Mm. Nous autres, on a des licences, on a un permis de conduire, les autres, ils n'ont rien de ça.
On les paye déjà. Permettez-moi.
Tu payes tes impôts, tes taxes, mais tu ne payes pas de certificat d'immatriculation comme moi.
Sur ma voiture, oui, je le fais. Puis je suis cycliste 12 mois par année.
Non.
Pardon?
Si ta bicyclette, non, tu n'as pas de plaque.
Avant, ça se faisait, puis ce n'était pas efficace. Ils disaient que c'était une espèce de capharnaüm administratif. Mais faire du bashing contre les cyclistes, c'est une chose. Mais il faut remettre aussi dans le contexte que le réseau cyclable actuel, vous avez Alain Gravel qui s'est cassé la marboulette la semaine dernière parce qu'il était sur des cracks. Il est tombé dans une espèce de nid de poule sur une piste cyclable. Allez faire un tour sur Rachel. Moi, je veux bien contribuer, mais on va avoir une obligation de résultat.
Ben, c'est la même chose pour les routes.
Mais ça revient, c'est ça.
Les essieux,
complètement,
tout,
ça devient un des gros problèmes. Merci beaucoup, Pierre. Merci
bonjour.
Jean-François, votre opinion là-dessus, est-ce que vous êtes... je vous repose la question. Là, est-ce que on dit qu'on veut que les gens prennent le transport en commun. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on a raison d'augmenter les tarifs du transport collectif à Montréal sur les rives nord et sud? Vous en pensez quoi?
Ben, je peux pas dire que je suis super enthousiaste à l'idée. Je comprends le principe de l'utilisateur-payeur, puis je suis bien d'accord avec ça. Sauf que je trouve que c'est un petit peu injuste dans le sens où on peut pas mettre attribuer le poids économique du transport en commun sur un pied d'égalité avec les routes. L'activité économique qui découle du réseau routier est beaucoup plus élevée que ce qui va découler du transport en commun. Donc, ça, c'est quelque chose qui profite à la richesse du Québec. Puis, tu sais, un camion de livraison, un 45 pieds, un 53 pieds, j'ai jamais vu ça prendre l'autobus ou prendre le métro ou rouler sur les pistes cyclables. Mais par contre, ça crée de la richesse au Québec. Mmh. Donc, cette richesse-là, à faire par la suite, entre autres, à financer le transport en commun.
Ouais.
Donc, l'immatriculation, je suis un petit peu ambivalent là-dessus. Je peux pas dire que je suis super d'accord. En tout cas, pas au regard des résultats qu'on a présentement au niveau de services qu'on a avec les transports en commun.
C'est ça. Parce que là, on parle de deux augmentations de tarifs. Il y a les tarifs comme tels du métro, de l'autobus quand tu l'utilises, mais il y a aussi, si tu as une voiture, l'augmentation de la taxe d'immatriculation que beaucoup, d'ailleurs, d'automobilistes disent « ben là, c'est assez parce que là, on sait jamais où l'argent va ». Même le CAA réagit ce matin. Annie Gauthier, qu'on connaît bien ici à cette émission, qui vient souvent nous voir, dit qu'elle pense pas... Elle considère que c'est une taxe punitive, injuste, puis elle pense pas que les gens vont être ravis de ça. Puis je pense, Mathieu, que...
Ben, moi,
à un moment donné, les gens, là, l'utilisateur payeur, oui, mais les gens se disent, attends, là, ça sert à quoi?
Oh, mais attends, je reprends l'argument du monsieur qui disait que le 45 pieds, c'est une activité économique au Québec. OK, mais les gens qui travaillent dans les tours à bureau au centre-ville, ça, c'est pas une activité économique, c'est pas des gens qui gagnent
et
l'argent.
Qui
c'est
métro,
pas des... Et qui viennent en métro. Mm-hmm. Ça, ces gens-là méritent d'être mieux desservis. Et s'ils n'utilisent pas leur voiture, ça va justement économiser des bris routiers qu'on a. Ça nous coûte une fortune en entretien routier parce qu'il y a trop de trafic. Développons le transport en commun, développons des voies réservées aux autobus, diminuons le trafic au centre-ville, on va économiser et sur l'entretien et sur justement tout ce qui est la mobilité pour les Montréalais, le temps perdu et tout ça. C'est ça qu'il faut. Un 45 pieds, j'aime bien ça, un 45 pieds, c'est vrai que ça, c'est une activité économique, mais une tour de bureau de 45 étages, je pense que ça amène beaucoup plus d'argent au Québec.
Bon, en même temps, il n'y a personne ici, je pense, qui remet en question l'idée que ça nous prend des camions pour déplacer les marchandises.
Je l'ai vu,
sur les 45 pieds, là, par exemple, il y a certaines villes d'Europe où ils ont dit ben les gros, les 10 roues, ça ne rentre pas dans le centre-ville.
Ça rentre pas parce que ça brise tout.
Utiliser des camionnettes. Ouais. Puis, parce que, écoute, l'autre jour, il y avait une congestion créée par un camion immense, un 10 roues qui essayait de tourner, puis il avait mal calculer ses affaires et ça passait pas. Ça a vraiment fait une congestion monstre.
Oui, puis il y a beaucoup d'accidents qui impliquent des piétons puis des cyclistes, évidemment, là, quand on a des monstres comme ça dans nos villes. Mais juste, je voulais en profiter pour quand même rappeler autre chose parce qu'on a parlé de l'impact économique là, du transport. Ouais. On oublie que le transport en commun a un impact économique beaucoup plus important, en fait, que le transport par voiture parce que entretenir un réseau de transport en commun, ça crée des emplois autant dans la fabrication d'autobus. Hein, on a une industrie ici au Québec, et ça crée des emplois, évidemment, pour opérer le réseau, l'entretenir, tout ce qui est la gestion, l'ingénierie qui est derrière ça. Donc, ça crée beaucoup plus d'emplois. En fait, on calcule que pour chaque 10 millions là, qui est investi dans le transport en commun, c'est près de 3 fois plus d'emplois que dans le transport automobile qui, en fait, repose sur l'importation de voitures, l'importation de pétrole. Donc, le transport en commun, c'est des emplois qu'on crée ici.
On a Rachel avec nous. Bonjour, Rachel. Votre opinion sur notre discussion de ce matin?
Oui, bonjour. Il y a plusieurs choses à dire, évidemment, mais je vais essayer de faire rapide. Bon, j'écoutais la dame tantôt qui parlait du transport gratuit à peu près pour tout le monde, là. Et ça, c'est bon, pas d'objection. Accepter qu'il y a une chose qu'il faut pas perdre de vue, c'est que si on fait ça, c'est toute la province qui va payer pour Montréal et les grandes villes. Et en région, d'où je viens personnellement, il y en a pas de transport en commun. Donc, est-ce qu'on va compenser les automobilistes? Je sais bien que je pose une question peut-être un peu...
C'est une très bonne question, par exemple, Rachel.
Et peut-être être obligé d'utiliser. Deuxième élément, c'est que là, le 50 $, me semble qu'il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, il y avait eu déjà une augmentation d'un certain montant. Moi, j'habite la Rive-Sud, là. Alors, il y avait eu déjà un certain montant qui avait sur nos plaques là, pour le transport en commun. J'imagine que vos invités sont au courant de cette première taxe-là supplémentaire. Là, on veut en rajouter une. En soi, écoutez, 50 $ par année, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va mourir de ça. Sauf que, moi, je voudrais avoir un plan qui va avec ça. Le 50 $, il va servir au juste à quoi?
100% d'accord.
Combien d'autobus qu'il va avoir de plus, admettons, là, je dis n'importe quoi, ou combien de je sais pas quoi qu'il va avoir de plus avec ce 50 $-là. Alors, donc, je pense que c'est le minimum qu'on devrait nous fournir comme information.
Ouais.
Puis pour un petit peu terminer, c'est que quand on regarde le REM et toutes ces choses-là, on dit ça va augmenter l'achalandage, etc. Moi, là, je ne sais pas quelles études ont été vraiment faites pour savoir jusqu'à quel point le montant investi et, bon, je comprends qu'il y a la pollution, etc., là, ça va vraiment aller chercher combien de réels utilisateurs. Ça, c'est une question, je pense, qu'il va falloir attendre des résultats, mais quand même. Et puis, pour terminer, ben moi, je pense que les cyclistes, présentement, bon, premièrement, puis deuxièmement, rapidement sur la question des routes, là, c'est que on veut des autos électriques. Ben, il va falloir qu'il y ait des routes aussi pour que ces gens-là puissent utiliser les autoroutes. Alors ça, on peut pas dire, on n'en veut pas.
Qu'est-ce que vous voulez dire, parce que c'est sur les mêmes routes, là?
Oui, oui, exactement. Mais ce que je veux dire,
ça prend juste des bornes, par exemple. Ça prend plus de bornes.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on dit, ben, il faudrait moins d'autoroutes, il faudrait moins. Je suis pas en désaccord du tout. Mais ce que je dis, c'est qu'éventuellement, on va avoir que des voitures électriques. Donc, la volet pollution devrait être moins présent. Mais ça va quand même prendre des routes en bonne condition pour que les gens puissent utiliser ces automobiles électriques là.
Merci, merci beaucoup, Rachel. On doit aller à la pause. On vient tout de suite après.
Arrive rempli l'autocar. J'y monte pour m'asseoir, mais reste debout. C'est comme être 100 milliards sur la lune pour un soir. Ça tire dans le cou. Je regarde les aiguilles de mon temps. J'ai une fille dans le sang. Si j'arrive en retard, elle va m'engueuler.
Ça c'est la situation de bien des gens. Quand on dit transport en commun, là, je vous rappelle, l'automne dernier, c'était épouvantable. Là. C'est hiver aussi. Là. Il y a tout le temps des périodes où les gens qui font l'essai du transport en commun. J'en ai plusieurs qui m'écrivent là, ce matin puis qui me disent « Mais moi, je l'ai essayé, j'ai fait mon effort. » vu que je paye pas, puis finalement, je suis revenue à ma voiture parce ouais. que ça a été un échec, finalement. C'est un peu dommage d'entendre ça. Sylvain, est-ce que vous comprenez qu'en même temps, on essaye de dire aux gens « Prenez le transport collectif », puis de l'autre côté, on leur dit « Mais en même temps, il faut que tu payes plus, soit comme automobiliste avec cette augmentation de la taxe sur l'immatriculation, ou comme usager en disant « Ben c'est le principe de l'utilisateur-payeur, tu l'utilises, il faut que tu payes plus. » Vous comprenez ça? Êtes-vous d'accord avec ça?
Moi, je serais d'accord avec une diminution de frais de transport puis une augmentation des plaques. Arrêtez de dire on va augmenter le transport puis on va augmenter les plaques. Si vous avez moyen d'avoir un auto, c'est que vous avez moyen de payer vos plaques. Mm-hmm. Puis si vous avez plus moyen de payer vos plaques, ben là, vous prenez le transport en commun. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mais vous savez, la notion de dire c'est un char parce que tu as les moyens de te le payer, là. C'est pas vrai pour tout le monde. Non. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Puis il y en a une dame qui nous a appelé, là, qui est originaire d'une région, là, Rachel. Puis je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi, des régions à qui ça doit parler, ça. Les gens qui sont en région n'ont pas de transport en commun. Ils sont très peu desservis. Fait que la voiture, c'est à peu près leur seule option. Tu te trouves à être pénalisé juste parce que tu n'habites pas à Montréal ou à Brossard ou à Laval. Julia, c'est un peu ça que vous avez aussi.
En région, c'est évident. Là, pis c'est, je pense que c'est un autre cas. Mais à Montréal, par contre, il y a quand même une différence. Les ménages plus pauvres, en fait, les ménages qui gagnent moins, les personnes qui gagnent moins de 20 000 $ c'est le tiers, à peu près un peu plus que le tiers qui ont une voiture versus des ménages plus fortunés. Là, le pourcentage de voitures est beaucoup plus élevé. Donc oui, il y a une différence. Puis oui, il y a des gens qui ont plus les moyens que
mais,
d'autres.
La classe moyenne est de moins en moins moyenne, par exemple.
Les horaires atypiques, si vous vivez en couronne, passez Boucherville à Varennes, à Verchères, vous voulez travailler dans le centre-ville, il faut aussi revoir son lieu de travail. Il faut qu'on se pose des questions. On vit à l'extérieur de Montréal parce qu'il y en a qui n'aiment pas la densité urbaine non plus. Il y en a pour qui c'est pas possible d'élever une famille dans un 3,5, un condo de 575 pieds carrés. Il faut regarder aussi des exemples internationaux. Il y a des villes qui se dotent de structures. On prend Fribourg en Allemagne, 300 000 habitants, c'est ma marotte. Il y a un tramway dans le centre-ville. Il y a des sections qui sont fermées aux piétons, aux voitures, pardon. Strasbourg, vous allez à Colmar en Strasbourg, c'est 30 minutes, puis c'est des trains de qui? Bombardier. Pas des vieux diesels là, des années 50, là, pout-pout via rail.
Oui, mais l'organisation de ces villes-là n'est pas du tout comparable à celle de Montréal.
Non, mais il faut y venir. Houston, de l'aéroport, ou Dallas, pardon, de l'aéroport, vous amène carrément dans le centre-ville avec le même train, puis ça m'a coûté, je pense, 5 $ US.
Ouais. Parce qu'il y a une vision différente du transport en commun dans plusieurs régions, surtout européennes. Souvent, le financement ne vient pas nécessairement seulement des gouvernements ou des usagers. Les entreprises contribuent au financement du transport en commun. Il y a des entreprises dans des villes, je te dirais, de 200 000 personnes et moins, comme à Dunkerque et tout, où le transport est complètement gratuit. C'est le financement. Ils imposent les entreprises. Les entreprises l'ont fait en toute bonne volonté, un certain petit pourcentage, et le transport est gratuit comme ça. Ça permet le transport des employés, c'est une marotte sociale qui va un petit peu mieux, c'est une meilleure fluidité, les employés sont contents, les entreprises sont contents. C'est une taxe particulière. Il y a plusieurs façons de financer le transport en commun. Ici, j'ai l'impression que c'est seulement paye. Ici, on paye. T'es quelqu'un, tu payes.
Paye ici, l'augmentation, c'est paye. Attends. Puis
arrange-toi.
Chiale.
C'est ça. Attends, chiale, puis arrange-toi. Alors qu'il y a différentes solutions qui existent. Il y a différentes façons de faire qu'on n'exploite jamais ici et qu'on dirait que ça effleure même pas l'esprit de ceux qui dirigent. Parce que, ben justement, comme je te parle, les entreprises qui financent le transport, c'est là, ça existe, c'est viable. Ici, on nous demande de l'argent, on n'a pas de solution, il n'y a personne qui amène une solution ou quoi que ce soit.
Ce que Valérie Plante dit, c'est communauté métropolitaine de Montréal, le fameux CCM, là, présidé donc par la mairesse de Montréal.
Moins de taxes, plus de bienvenue.
Qu'elle nous disait en campagne électorale.
En 2017, oui. Je veux juste te rappeler, Isabelle, ici, là, ça a pris 4 ans à mettre les lignes cellulaires dans le métro sur la ligne verte. Je veux dire, on n'est pas rendu sur un plan de développement incroyable. Ouais.
Le transport en commun à Montréal, c'est ça. C'est à peu près le tiers qui est du financement qui est assumé par les usagers, un peu plus du tiers par les gouvernements, un autre tiers les municipalités. Les automobilistes, c'est moins de 10 %. Donc, bon, c'est pas eux qui financent le plus gros. Mais donc, la discussion qu'on a, c'est ça, je pense, depuis tantôt. C'est qui finance puis qui finance quoi.
C'est ça.
Et là, évidemment, on peut pas constamment taxer les gens parce que le coût de la vie augmente. Puis, bon, ça a un impact sur la qualité de vie, là, au bout de la ligne. Mais là, on a des fonds publics qui sont mis. C'est intéressant. Tantôt, il y a une dame qui a parlé des véhicules électriques. Ouais. Hein? On finance les véhicules électriques parce qu'on veut remplacer les voitures à combustible. Or, on va pas. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt mettre cet argent-là dans le transport en commun? Parce qu'on dit il faut arrêter d'ajouter des voitures sur les routes. Là, en ce moment, là, depuis 15 ans, le nombre de voitures augmente deux fois plus vite que la population en âge de conduire. Donc, les problèmes de congestion, là, les problèmes de le coût de l'augmentation de l'essence, ça va juste aller en s'aggravant. Donc, on a besoin de faire plus de voitures.
Non, mais Julia, ton point est intéressant. Pourquoi qu'il y a plus de voitures? Parce que
les gens vont s'établir plus loin.
Exactement,
parce que ça coûte moins cher.
Donc, c'est la symptomatologie d'une maladie qu'on n'arrive pas à éradiquer. Moi, je m'excuse.
C'est quoi la maladie?
On ne pense pas l'urbanisme de nos villes de façon convenable.
Non, mais on ne pense pas, là. Point.
On ne pense pas l'urbanisme de nos villes de façon convenable. C'est pas normal que le train de l'Est est une seule voie et un horaire qui est complètement déconnecté de la réalité des gens qui ont un horaire atypique. Si moi, par exemple, je suis infirmier et je travaille de minuit à 7 heures le matin je veux parce que j'ai des enfants et je vis, mettons, dans l'Est, à Mascouche, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends la voiture et il n'y a pas de trafic à cette heure-là.
Question intéressante. Tout à l'heure, on a parlé du fonds vert. On a juste mentionné ça. Pourquoi le fonds vert n'est pas utilisé dans ce cas-ci au lieu de la taxe de 50$?
Ben, il est utilisé, Isabelle. On a donné 800 000 à Air Canada pour qu'il y ait des ailes plus éco-énergétiques.
Non, mais à part ça.
On sait qu'il y a un problème avec la gestion du fonds vert. On l'a vu.
Farce.
On sait que les projets qui sont financés, on ne voit pas la logique. Gaz Métro Énergie reçoit de l'argent du fonds vert. Il n'y a pas de cohérence. Alors qu'on a là des sous qui sont mis, hein, encore une fois, de l'ensemble des Québécois et des Québécoises qui contribuent au fonds vert pour, soi-disant, réduire nos GES. Mais donc, est-ce qu'on peut effectivement utiliser cette cagnotte-là?
Est-ce qu'on sait, Julien, combien il y a dans la cagnotte?
C'est plusieurs milliards.
Ils sont à
4
milliards,
oui, c'est
4 milliards.
Là. J'entendais justement la ministre Rouleau ce matin à l'émission de Paul Arcand parler de commencer à utiliser cet argent-là justement pour développer un meilleur système de transport en commun. Ouais. Mais on commence à y penser.
On commence.
Quand on développe un réseau qui est structurant, qui est intelligent, qui est confortable, qui est accessible, les gens l'utilisent. Quand on a prolongé la ligne de métro à Laval, ça s'est rempli le lendemain. Donc, c'est pas les gens, ils vont utiliser le transport en commun, mais si ça leur permet d'aller rapidement chez eux. Moi, je veux dire, même sur l'île de Montréal, même quand on habite dans les quartiers centraux, des fois, ça prend trois fois plus de temps de se rendre du point A au point B en transport en commun qu'en voiture. Donc là, on a vu par exemple, à Montréal, se développer l'offre d'autopartage, qui est une alternative intéressante, mais c'est encore des voitures qu'on rajoute sur nos routes. Les routes, elles vont pas, même si on double les kilomètres, elles vont juste se remplir davantage. Il faut vraiment investir dans le transport en commun.
On a Judy avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
J'ose espérer que l'émission que vous produisez va avoir un impact vis-à-vis de la population. Et moi, je m'explique, j'aurais quelques suggestions à faire. En passant, je suis Montréalais, puis je suis d'accord avec l'augmentation.
Okay.
Et puis, moi, c'est concernant la voiture. Moi, j'aurais peut-être une idée, là, ou quelques idées, pour décongestionner, justement, vis-à-vis de la voiture, vis-à-vis des banlieues nord, que ce soit Mirabel, que ce soit Pointe-aux-Trembles, que ce soit Laval. Pourquoi? J'espère même que les gestionnaires qui ont... qui ont le plan là dans les dans, comme on dit le, sur le bureau là, pourquoi ces gestionnaires là bâtiraient pas plus de stationnements incitatifs pour leur clientèle plutôt que ce soit la mairesse de Montréal qui nous enlève des espaces pour dans nos bouts de d'île là, pour donner de la place à ces gens là nous on pourrait récupérer ces espaces là pour que ça retourne en parc. Puis ces gens-là, eux, pourraient... Dites-moi si c'est si bête que ça, ce que je vais vous dire. Pourquoi est-ce qu'ils ne récupéreraient pas les autobus là, de la CTM là, qui s'en vont faire 20 ans de plus à Cuba ou les anciens Greyhound, etc., pour que ces gens-là puissent venir travailler à Montréal puis qu'ils soient, ni plus ni moins, déposés à la première station de métro, que ce soit au nord, à l'est, au sud, à partir de aussi bien Longueuil.
Merci, Judy.
Marc-Antoine, vous savez, monsieur, pourquoi on envoie les autobus à Cuba? Pourquoi qu'on envoie nos vidanges
pourquoi?
Là-bas? Parce qu'ils polluent ces autobus-là, puis ils rencontrent pas nos standards de pollution. Fait qu'on envoie ça à Cuba parce que eux autres n'ont pas les mêmes normes environnementales que nous. Ça nous fait des grands champions de l'environnement. Hein?
Pour les stationnements incitatifs, entre autres à Longueuil, c'est Marc Brière ce matin qui me disait disait que quand il y a des activités, pour vous dire comme quoi on n'est pas forcément cohérent, là, quand il y a des activités, que ce soit du Grand Prix, à n'importe quelle autre activité qui se passe, soit sur l'île Sainte-Hélène ou dans le coin, et où les gens, on leur dit, ben prenez le transport en commun, allez à Longueuil, par exemple, incitatif, là, va te garer à Longueuil, puis après, tu vas où tu veux. Au lieu de payer 6, 8 $, 9 $, hein, là, on va souvent doubler, ça va être 20 $. Tu sais, c'est comme si on... OK, tu t'en viens. Attends, je vais juste abuser de toi un peu plus. On moi, cette attitude-là, ouais, là,
c'est ça. Ouais.
Tellement québécoise, je suis plus capable. Tu sais, genre, OK, toi, le petit, là, mais t'es, on va t'acclingue. On va te faire payer
mais
plus.
Mais ça, c'est pas un petit crosseur.
Ce matin, j'arrive, là, je me gare en face, là. 22,50 $, le stationnement, là. C'était 20 $ l'année dernière. Ça veut dire qu'en un an, c'est 2,50 $ d'augmentation. Penses-tu qu'ils te préviennent? Non, parce que tu as une auto, tu es un méchant qui peut payer. Moi, je suis plus capable
c'est
de...
C'est le monopole. C'est voilà. Moi, je prends voilà, le vélo pour faire des fois 15 ouais. minutes. Ça me prend 45 minutes. C'est le même temps d'aller au centre-ville que ça me prendrait pour aller à Bromont.
Moi, j'habite à Verdun. Ouais. Si je veux venir au centre-ville, il faut que j'aille à Saint-Henri. Comprends pourquoi.
Mes sympathies.
Okay? Oui, exactement.
Je suis passé par
je prends mon char. C'est ça qui arrive. On va à la pause.
Avant hier.
Bonjour, on vient avec un auditeur. Bonjour, Belle.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec l'augmentation sur les plaques. Oui. Parce que, bon, j'habite en région, puis je travaille à l'ouest, puis je viens très, très rarement à Montréal.
Oui. Hein?
Puis quand je viens, je suis déçu. Déçu des routes, puis des nids de poules qui, à chaque fois, c'est les mêmes cônes oranges, c'est les mêmes chantiers. Je sais pas, est-ce que il y a quelqu'un qui surveille ça ou c'est juste laissé comme
non.
Périodique?
À peine.
Puis, je travaille des fois en Ontario, fait que je prends les routes de l'Ontario. Là-bas, c'est rare de trouver un cône orange. Puis, une fois que c'est fait, je peux le dire parce que ça fait comme 5 ans que je travaille en Ontario.
Mm-hmm.
Tu ne revois jamais le même chantier sur le même coin là. Donc, est-ce que c'est pas le même sol, c'est pas le même asphalte, je ne sais pas.
Ouais. Mais donc, vous n'êtes pas d'accord, vous, Belle.
Non, non, je ne suis pas d'accord.
Merci beaucoup, Frédéric. Votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour. Je suis vraiment d'accord avec le monsieur qui vient de passer juste avant moi.
Mm-hmm.
Je crois qu'il devrait y avoir un système un petit peu automatique comme sur le nouveau pont de la 25 pour les gens qui utilisent soir et matin pour qu'ils puissent charger, que ce soit à 50 sous, 75 sous à chaque fois qu'il y a un passage à travers le pont qui moi j'avais sur la rive nord. Donc à chaque fois qu'il passe.
Mais vous avez-vous le transbordeur dans votre auto? C'est ça?
Oui, j'ai le transbordeur dans l'auto pour moi, pour le pont de la 25. Donc
mais c'est
là,
ça.
Les gens, comme le monsieur qui habite sur la rive nord et qui vient jamais à Montréal, pourquoi est-ce qu'il devrait payer pour les gens qui sont à Montréal? C'est tout ce qui est gouvernemental est un puits sans fond. L'argent il n'en aura jamais assez. De toute façon, ils nous obligent maintenant à payer notre permis de conduire et nos plaques à chaque année, alors qu'avant, c'était tous les 2 ans.
Ouais. Merci, Fred. On parlait justement du pont de la 25 pendant la pause.
Mais l'augmentation de 50 $, je pense que c'est pour le transport en commun aussi, à Laval et
Longueuil. C'est les 82 municipalités qui sont touchées par le CCM. Donc, c'est vraiment là, tout le monde autour de la région de Montréal. C'est Montréal métro. Là.
Ben, c'est pas le monsieur de Laval qui paye pour Montréal.
Non, exact. Okay. Tu fais bien de le dire. C'est la moitié du Québec qui est touchée par ça. Mais la mairesse Valérie Plante, c'est elle qui chapeaute ça parce que c'est elle qui a la représentation. Il y en a qui me disent pourquoi c'est Montréal encore qui gère ça. Mais c'est une décision. La façon dont ça fonctionne, c'est que à la communauté métropolitaine de Montréal, CCM, les 82 villes vont voter là-dessus aujourd'hui. C'est chapeauté par la mairesse parce que c'est elle qui aujourd'hui a ce poste-là. Ça touche 82 villes. Et ça a l'air que les maires sont pas mal d'accord, même s'il y en a, comme apparemment au Mont-Saint-Hilaire, ils disent... Oui, on voudrait quand même savoir où va l'argent. Nous autres aussi.
Isabelle, quand 70% des revenus de Montréal viennent de la taxe foncière,
ils ne savent plus où le trouver.
La ville a soif. Okay? Les villes ont soif. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un déficit de crédibilité puis un déficit de confiance auprès des gens. On se fait dire n'importe quoi depuis toujours. Si ces mêmes gens-là qui sont en poste et qui votent des augmentations à tout vent sont prêts à mettre leur poste en jeu avec des objectifs très, très, très crédibles et réalisables et qu'ils les rencontrent, on va taper des mains puis on va accepter. Mais si on se fait enfirouaper avec des hausses sans cesse qui engraissent une machine qui est aucunement efficace,
oui,
c'est là que j'arrête.
Puis, mais à la décharge de la mairesse de Montréal, oh mon Dieu, c'est pas souvent que je fais ça, mais quand même, à la décharge de bien des maires des municipalités, comme tu viens de le rappeler justement, c'est les taxes foncières. À un moment donné, il y a des limites là aussi. Et il y a le gouvernement provincial et les gouvernements fédéraux. T'sais, on parle beaucoup de l'éoduc là, cette semaine à cause de Justin Trudeau qui vient de donner le go. Mais on subventionne l'industrie pétrolière. On donne des centaines de millions de dollars à une industrie qui fait du cash comme de l'eau. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le fédéral subventionne encore le pétrole?
Et les mines.
Les pétrolières, les mines.
Les jobs.
Qui sacquent le camp sans jamais rien.
Ils sont capables de payer les jobs, Marc-Antoine.
Il y a beaucoup plus d'emplois dans le transport en commun que dans l'industrie pétrolière. Mais donc ça, c'est de l'argent collectif qu'on met. Puis il ne faut pas oublier que la congestion là, qui va augmenter d'année en année, elle nous coûte là, 4 milliards de dollars par année, la congestion.
Donc, on a intérêt à calculer.
À amener les gens à utiliser le transport en commun. Mais évidemment, il va falloir le financer adéquatement.
Merci beaucoup. C'est le mot de la fin. Merci à tous les trois.